Bonjour à tous et quelle joie d'être avec vous ce matin, en ce début d'année, après ces jours de repos, je l'espère, quoiqu'ils ne sont pas toujours très reposants, hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pu goûter au fait qu'on ne dort pas toujours aussi bien qu'on ne le veut pendant ces jours-là. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, grâce à Dieu. Et en ce début d'année nouvelle, j'ai à cœur de méditer avec vous, mes chers frères et sœurs, le récit, un récit, mais cette fois-ci c'est le récit des origines. Or, c'est comme ça que je l'appelle ce matin. C'est un récit biblique, bien sûr, qui continue de soulever beaucoup de passions. Car au gré des interprétations, de nos interprétations, il souligne quelque chose d'important, notre vision du monde, notre façon aussi de lire les Écritures et de la recevoir. Encore aujourd'hui, le questionnement des origines du monde et de l'univers, ainsi que celui du rapport entre la foi, notre foi, et notre monde, et surtout le domaine des sciences, peut demeurer un sujet brûlant, tant dans nos communautés chrétiennes, qui ont des visions parfois très différentes et opposées entre elles là-dessus, que des médias qui nous regardent aussi avec parfois beaucoup de méfiance, et en nous voyant comme des arriérés, en nous mettant même parfois tous dans le même panier. Alors bien sûr, maintes questions gravitent autour de ce sujet brûlant. Avons-nous été appelés à la vie? Y a-t-il un grand architecte de ce monde qui saurait où va la vie? Alors je pense que vous avez certainement des réponses à ces questions-là, mais au dehors, parfois ces questions tombent dans le vide. Et peut-être même, autre genre de questionnement, mais quelle est la vocation de l'homme au milieu de tout cela, au milieu de ce monde, et de ce monde créé même? Le récit biblique, alors je pense que vous devinez et cernez lequel je vais aller lire ce matin avec vous, mais le récit biblique que nous allons méditer ensemble porte, il me semble, des réponses à tout cela. Aussi, tournons-nous vers Dieu afin de nous mettre dans une écoute attentive de sa parole. Alors je vous invite à prendre votre Bible, puisque nous sommes en tout début d'année, au tout premier récit, chapitre de votre Bible, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse et surtout en son chapitre 1. Et nous allons le lire entièrement. Ou presque entièrement. Je crois que je vais laisser peut-être un dernier verset de côté. Peut-être. On verra. Donc Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1, et nous allons presque jusqu'au bout. C'est une assez longue lecture, donc accrochez-vous. Alors, les premiers mots, je pense, vous les connaissez par cœur, mais écoutons quand même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre, alors, j'ai bien la même traduction, mais elle a évolué entre-temps. Il est dit, or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux, qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe, portant sa semence et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux et chaque espèce d'oiseaux ailés. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. » Qu'il nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers, portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meurt à ras terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Et je m'arrête ici. Que nous puissions peut-être, juste un instant, nous incliner afin de peut-être nous en remettre davantage au Seigneur par rapport à ce texte. Seigneur, nous voulons avant toute chose te demander ta sagesse, que ton Esprit Saint que tu nous as donné puisse nous éclairer dans ce que veulent dire encore ces paroles pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, si il est vrai que ce texte parfois bénéficie de diverses interprétations qui amènent parfois même à des querelles, Seigneur, fais que dans notre cœur demeure la paix, de pouvoir regarder à toi, et de comprendre ce que tu désires encore nous dire ce matin, avant tout. Amen. Sûrement, l'un des points les plus délicats quand on aborde ce texte de Genèse chapitre 1 est de savoir comment articuler cette parole que l'on reçoit ici comme bien sûr parole inspirée de Dieu, c'est-à-dire une parole qui ne se trompe pas et qui ne nous trompe pas. Notamment avec les données qu'aujourd'hui les hommes ont su recueillir à force de recherche, notamment dans la science. Et cela, bien sûr, nous pose parfois quelques questions, parfois même depuis très très longtemps, quand nous étions jeunes, et que nous avions déjà le bénéfice de connaître sa parole et en même temps d'écouter nos instituteurs. C'est un vieux mot, hein. Je suis vraiment d'une vieille époque, mais de nos professeurs des écoles, ou après, de nos professeurs au collège et au lycée, et encore après peut-être. Mais peut-être une petite question toute bête, mais les dinosaures, Vous savez, ces monstres, hein, je ne cherche même pas à mettre d'image, je pense que vous voyez de quoi je parle. Les dinosaures, comment les situer? Ils ont dû exister quand même. Autre question, mais sur laquelle je ne chercherai pas forcément à répondre, mais si la lumière apparaît le premier jour dans notre récit, pourquoi le soleil n'est-il créé que le quatrième jour? Et on peut poser plein d'autres questions autour de cela, hein, très naïvement. Ou encore, sachant que les végétaux, on sait ce que c'est que les végétaux, les plantes, en général, elles ont pour à peu près toutes besoin de lumière, du rayonnement solaire pour vivre, ce dernier n'apparaissant qu'après eux, comment font-elles pendant tout ce temps? Bon. Alors peut-être vous me direz, oui, mais ça ne dure que 24 heures, elles n'ont pas le temps de mourir entre-temps. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des manières de répondre. Mais plus généralement, comment nous situer en tant que croyants par rapport aujourd'hui aux découvertes scientifiques? C'est pas l'une des questions, mais c'est peut-être l'une de celles vers laquelle je chercherai à apporter une réponse ce matin. Je ne vous le cache pas que dans ma jeunesse, ça remonte maintenant, étant féru de science, d'ailleurs je les ai même enseignés autrefois, et grandissant tout en même temps dans la foi, je percevais des éléments qui semblaient irréconciliables. Entre ce qu'on appelle parfois encore aujourd'hui les sciences dures, la physique, l'astronomie, la biologie, etc., hein, et les écritures bibliques de l'autre côté, ou du moins certaines de leurs interprétations. Honnêtement, il fut encore un temps, tout cela me déboussolait. Je n'étais pas sûr de bien saisir comment je pouvais articuler et ma foi et ce que le monde des hommes avait su comprendre de par son intelligence. Ce matin, je ne tiens surtout pas et n'ambitionne pas non plus à répondre à la diversité des questionnements qui se posent entre foi et science. Ça ne sera pas le challenge, croyez-moi. Aussi, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce récit pour le découvrir de manière renouvelée, tel qu'il se présente, en recevant le message qui nous est adressée. Une invitation à vivre dans un monde créé. Je reviens bien sur cette phrase-là, mais je vois dans ce texte-là une invitation à vivre dans un monde créé, ordonné, intelligible. Et j'insiste bien aussi sur ce mot-là, intelligible. Un monde qui a du sens. Un monde qui peut se réfléchir et se comprendre. Et à ce que cela veut dire aussi pour la foi et l'espérance chrétienne. Voilà ce à quoi je veux m'attacher ce matin. Les autres questions, les dinosaures et tout ça, on les oublie. Il n'y aura pas de résolution là-dessus. Après, je vous laisse voir. Mais de reposer peut-être la question autrement, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans sa création aujourd'hui? Alors, bien évidemment, vous le savez, mais plusieurs interprétations existent autour de ce texte-là. Plusieurs interprétations de ce récit existent et s'affrontent encore aujourd'hui. Je suis sûr que peut-être même dans les discussions, peut-être au sein des groupes de jeunes, c'est plus là en général qu'on aime à discuter, à batailler. Après, quand on vieillit, on oublie, on laisse ça de côté, on se dit non, mais la paix fraternelle avant tout, n'allons pas nous chamailler sur cela. Alors la jeunesse permet que, mais oui, les interprétations autour de ce texte s'affrontent toujours. Je crois que ça demeure. L'une de ces interprétations qui a toujours cours et qui a cours d'ailleurs dans nos milieux évangéliques, mais sans pour autant être l'unique représentante de l'interprétation que les évangéliques peuvent avoir, est celle d'une lecture littérale du texte. Une lecture littérale qui a le souci de vouloir défendre l'intégrité du texte tel qu'il se présente encore aujourd'hui à nous. Autrement dit, et juste pour la redéfinir, la lecture littérale, c'est de prendre au mot ce qu'il veut dire. Je le lis et puis je le comprends tel que je le lis au premier degré, pour ainsi dire, hein, sans trop vouloir trahir cette interprétation. Pour autant, l'interprétation, ce type d'interprétation a des inconvénients. Et l'inconvénient de cette interprétation d'une lecture littérale est de se dresser contre plusieurs découvertes scientifiques, qui sont alors considérées comme des hypothèses fluctuantes, suspectes et certainement malhonnêtes. J'exagère peut-être, mais cela est perçu ainsi. Autrement dit, le monde des sciences est tout d'un coup quelque chose qui devient nauséabond. Et si l'on suit cette interprétation, J'essaie de ne pas déformer hein, ce qui est dit, c'est pas forcément celle que je partage, je pense que vous la soupçonnez déjà. L'univers, dans cette interprétation, est de création récente. Et quand je dis récent, c'est pas tout à fait à notre échelle humaine, mais d'environ maximum 10 000 ans, je crois, hein, tout au plus. Ainsi, l'univers aurait été créé littéralement en 6 jours de 24 heures. Par des interventions divines successives, telles qu'on le lit là, et à un rythme plutôt effréné. Hein. Tel jour, il y a tout ça qui sort, le lendemain, il y a tout ça, etc. etc. Et toujours selon cette interprétation, la Bible est claire, et le sens littéral est à privilégier par souci de fidélité à l'écriture. Et c'est très honorable. Je le dis bien, c'est très honorable. Notez que d'ailleurs, cette interprétation est appelée à tort, et c'est plus souvent les médias que nous-mêmes hein, qui utilisons ce jargon. Alors parfois on le réemprunte, et c'est pas toujours très adroit, mais cette interprétation est appelée thèse créationniste. Ceux qui défendent une lecture littérale sont créationnistes. Bon, et ça ce sont les médias qui le disent. Autrefois en même temps, le monde païen décrivait les premiers chrétiens comme des chrétiens. Ils n'avaient pas encore ce nom-là. On l'a récupéré, on l'a gardé. Alors voilà. Le temps dira s'il est sage de l'utiliser ainsi ou s'il faut peut-être être un peu plus nuancé aussi. Mais je dis bien que cette interprétation est appelée à tort thèse créationniste, et je dis bien à tort car elle n'est pas la seule à proclamer Dieu en tant que créateur de toutes choses quand on lit ce texte et qu'on peut le voir autrement. Il existe d'autres manières d'interpréter cela et de voir Dieu comme créateur. Donc ce sont aussi des thèses créationnistes, mais avec d'autres sensibilités, d'autres lectures. Donc n'ayez pas l'apanage d'être créationniste si vous pensez avoir raison en lisant littéralement. Les autres frères et sœurs sont aussi certainement, et je l'espère, créationnistes parce qu'ils croient simplement que Dieu a tout créé. C'est ça être créationniste. Vous êtes tous créationnistes. Vous croyez que Dieu a tout créé. Voilà, nous sommes tous créationnistes. Donc, après nous avons peut-être des sensibilités différentes. Voyez comme nous sommes en paix. Par contre, et là je m'engage un peu dans ma conviction personnelle, je crois que cette lecture littérale, ce type d'interprétation, celle-ci en tout cas, celle que j'ai décrite très brièvement, hein, sans lui rendre pleinement grâce, est une erreur. C'est une erreur parce qu'elle pose comme principe que le sens littéral est toujours celui qui s'impose pour accéder à la vérité du texte inspiré. Je répète juste parce que c'est une longue phrase avec plein de mots qui pèsent, mais l'erreur c'est que de croire que le principe fort, ce sens littéral est toujours celui qui s'impose pour accéder à la vérité du texte inspiré. Parce que ça n'est pas que sur Genèse 1 qu'on peut le faire, on peut le faire partout ailleurs. Et parfois juste pour faire pression sur le frère qui est en face et de lui imposer une lecture que je ne crois même pas parfois. Parce qu'on aime à le prendre d'une manière littérale parce que ça nous aide. Et ce réflexe d'une lecture littérale, quand il devient systématique, attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais lire la Bible d'une manière littérale. Il y a des endroits. Il y a d'autres endroits, jamais. Mais quand ce réflexe devient systématique, il peut conduire à de sérieux problèmes, même à de sérieux contresens. En effet, et je vous mets cela en exemple, il est évident qu'on n'interprétera pas dans l'Écriture les différents textes de la même manière. Prenez une parabole qui raconte à la base une histoire fictive, mais pour donner sens à quelque chose d'important. Vous n'allez surtout pas la lire d'une manière littérale. Autre exemple, un texte narratif qui raconte l'histoire plus ou moins réellement vécue, avec parfois des regards un peu différents, des jugements portés, parfois une absence de jugement, qui nous invite, nous, à nous interroger. Là, oui, on peut le prendre déjà plus littéralement, parce que c'est un récit qui nous est conté dans un temps. Prenez un autre exemple, un psaume. Alors, il y en a plein, mais tout psaume, même si vous préférez, est une expression poétique de la sagesse divine dans la vie des hommes. Ça ne se lit pas tout à fait littéralement, un poème, un psaume. Bon. Ou encore, plus encore peut-être même, un tableau de l'Apocalypse. L'Apocalypse regorge de tableaux, d'images fortes, lourdes de symboles. Une lecture littéral plaqué sur des textes de l'Apocalypse ne peut pas fonctionner, en général, si ce n'est toujours. Il y a donc danger à forcer le principe d'une lecture qui, par littéralité, se croit plus respectueuse de la révélation divine, alors que la diversité des genres littéraires qui sont dans la Bible, qui composent les Saintes Écritures, sont autant d'indices qui nous mettent sur la voie, selon laquelle il va falloir recevoir la parole de Dieu que lui veut nous adresser à travers la diversité de tous ces textes qui composent la Bible. Il y a donc une prudence et une sagesse quand on lit et on aborde la Bible. Alors, on n'a pas toujours les clés. C'est cela qui parfois nous met mal à l'aise, nous facilite pas. Mais parce que nous sommes effrères et que nous nous exhortons à la découvrir et à la lire ensemble, nous y parvenons. Nous ne sommes pas seuls face à lui, face à ce texte. Bon, après avoir élargi très largement sur comment nous pouvons venir à lire la Bible avec la prudence à avoir, je reviens un peu plus sur notre récit, celui de Genèse 1. Notre récit des origines. Et la question est de savoir à quoi nous avons affaire dans ce texte. C'est quoi ce genre de texte? C'est quoi ce texte-là en particulier? Parce qu'il est peut-être même un peu unique dans tout le reste de la Bible. Pour notre récit de Genèse 1, je vous avoue, je partage la conviction de ce que j'appelle mes pères, de ceux qui m'ont enseigné et préparé à entrer dans le ministère. Ça a commencé par quelques pasteurs autrefois, que j'ai surtout connu en Bretagne, mais il y en a un qui était ici auparavant. Il a été le premier pasteur, ici même Anthony, mais très peu se souviennent de lui. Je cherche Catherine, voilà, elle l'a connue. Et puis il y a Christiane aussi, mais je crois qu'elle est sortie. Et puis d'autres, ceux qui ont été mes professeurs. Mais quelle est cette conviction que je partage avec eux? Je vous la livre. Avec ce récit de création, Genèse 1, nous avons là, et écoutez bien, un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre, un bijou littéraire écrit avec beauté. Un texte très bien ficelé, selon une logique propre à l'auteur inspiré qu'il nous faut découvrir. Non pas dans une logique strictement chronologique, mais dans une logique d'une composition artistique. Autrement dit, alors, en français, ça se perçoit moins bien, tout comme en anglais, tout comme à peu près toutes les langues, sauf quand on a la chance de pouvoir le lire dans l'hébreu originel. C'est pas donné à tout le monde, je le sais. Mais quand on a cette chance-là et qu'on peut le décortiquer, on voit tout le travail fait par l'auteur. Il y a quelque chose qui ressemble à un poème, tant il y a des jeux là-dedans. Et à ce stade, je m'arrête un tout petit peu, mais comprenons que pour honorer la parole de Dieu, il nous faut comprendre pourquoi l'auteur, poussé par l'Esprit, a choisi cette forme d'expression et quel message de fond il veut ainsi nous faire passer. Il n'a pas choisi de nous écrire un texte biblique sous la forme, alors ça n'existait pas à l'époque, mais je prends des exemples d'aujourd'hui, sous la forme d'un article de journal qui cherche à raconter fait après fait ce qui s'est passé hier à Paris avec les Gilets jaunes. Bon bref. Ça, c'est le monde de la presse, c'est la manière de raconter. Il n'a pas choisi de le faire autrement que sous la forme d'un beau texte, très travaillé, où au beau milieu des jours, il y a quasiment autant de mots avant que après, à un mot près. 205 et 206, je crois, ou 203 et 204, j'ai plus tout à fait le nombre de mots hébreux, mais on en est là. C'est un texte qui est aussi bien travaillé que beaucoup des psaumes. Et il y a même plein de psaumes qui sont moins bien travaillés que celui-là, c'est vous dire. Aussi, en abordant notre récit et en percevant qu'il y a là une belle œuvre littéraire, on peut alors y discerner des parallèles d'un jour à l'autre, qu'il y a un ordre, qu'il y a au sein de tout cela une harmonie, même des jeux de nombre de mots qui réapparaissent de ci, de là. Et plus encore, et ça on le perd en général dans les traductions, des jeux de sonorité qui n'existent que dans la langue originelle. Vous savez, un peu comme des rimes. Sauf qu'elles ne sont pas que placées à la fin, elles jouent dans les mots. Aussi, l'auteur, dans sa pédagogie, choisit de délivrer son message, ici même en Genèse 1, en s'appuyant sur une image avant tout. L'image d'une semaine humaine de travail. Alors, c'était pas les 35 heures à l'époque, hein, ne le regardez pas comme ça, mais l'auteur choisit de le décrire dans le cadre qui est une image, celle de la semaine humaine de travail. Ainsi, il vient à décrire d'une manière figurée Dieu à l'œuvre dans son œuvre de création. Avec une alternance de séquences de travail, le jour, et de repos, la nuit. Il y a des nuits. Oh, il n'est pas décrété qu'il y a le repos du Seigneur à ce moment-là, mais il y a des nuits. Mais il y a six temps différents qui vont s'achever par le septième jour. On n'a pas été jusqu'à lire, mais je sais que vous connaissez un petit peu la suite, donc le mystère n'est pas trop là. Mais ces temps différents sont agencés, et vous l'avez certainement remarqué, vous l'avez peut-être même déjà entendu et reçu comme enseignement, les différents jours sont agencés en deux groupes parallèles de 3 jours. Les 3 premiers d'un côté, les 3 suivants de l'autre. Et on peut presque les mettre en regard l'un par rapport à l'autre. Alors, je me permets une petite question, parce que je suis un petit peu technique, j'espère pas trop. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Ouais? Je vais pas remonter tout en arrière et tout vous refaire, hein, vous inquiétez pas non plus. Hein. Sinon, après, j'ai Simon qui va me dire attention à l'heure. Hein. Mais au cours des 3 premiers jours, on voit Dieu construire le cadre de la création. Un cadre. Il plante le décor. La lumière le premier jour, la mer et le ciel le deuxième jour, la terre ferme le troisième jour. Et si on regarde aux 3 jours suivants, cette deuxième triade, Dieu va remplir cet espace créé, ce lieu de vie en le peuplant, selon un parallèle avec les 3 premiers jours. Ainsi, on perçoit comme une correspondance avec une reprise des thèmes. Je vous donne 2 exemples. Au jour 4, donc le premier jour de la deuxième triade, du deuxième nombre de 3 jours. Au jour 4 correspond ainsi le jour 1, le tout premier. À la lumière du jour 1 correspond les luminaires du jour 4. Le soleil et la lune, c'est-à-dire. Et on voit là, entre parenthèses, qu'on n'est pas strictement dans une logique chronologique, dans la mesure où le soleil est la source de vie. Que c'est le soleil lui-même, celui que nous avons aujourd'hui, qui éclaire la terre. D'ailleurs, il l'est mentionné. Je regarde, deuxième petit exemple, et je m'arrête après cela, au jour 6, le dernier, correspond, dans la logique que je vous ai donnée, telle que je l'interprète, moi, le jour 3, dans le cadre. La terre ferme, qui apparaît le jour 3, est maintenant à son tour habité par une variété d'espèces, et enfin par l'homme, couronnement de la création et intendant de celle-ci. Il fallait qu'il apparaisse en toute fin parce qu'il a un rôle à part. Alors, je détaille pas tout, parce qu'on pourrait rester des heures et je vous ferai une conférence de 3 jours et je vous aurais éteint un petit peu, hein, je pense que vous ne survivrez pas à cela. Mais entendez bien, l'auteur a composé les choses d'une manière qui joue de cela, de ces parallèles, de ces contrastes, de ce cadre qui se fait remplir à la suite, avec au milieu la végétation qui forme comme une charnière. Il y a quelque chose qui participe à la fois au cadre, mais qui fait partie un peu des êtres vivants, et donc joue un peu sur les deux tableaux. Et c'est dans le jour 3, juste avant de passer au jour 4. Bref, ce sont des jeux littéraires. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que l'on retrouve nombre d'ingrédients de la création de l'univers tels que les sciences l'ont découvert jusqu'ici. Et ça n'est pas pour autant un texte scientifique. Et en même temps, ce que la science a pu découvrir, comprendre, a essayé d'interpréter, là aussi il y a interprétation, mais en essayant de le baser sur des faits. Or parfois sur des hypothèses qui ne peuvent pas complètement se vérifier. La sagesse de l'homme ne suffit pas aujourd'hui. Peut-être elle avancera, peut-être elle n'arrivera pas à tout trouver, peu importe. Mais oui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'on retrouve nombre d'ingrédients de la création de l'univers tel que les sciences l'ont découvert jusqu'ici, et en même temps dans le désordre, parce que l'on a un agencement artistique désiré par l'auteur. Un agencement qui donne du sens, car c'est ça qui, pour l'auteur, est le plus important. L'auteur n'est pas là pour nous dire comment les choses ont été créées, mais de dire ce que Dieu a voulu faire avec nous, au beau milieu de tout ça. Oui, il y a un agencement avant tout qui cherche à donner du sens, qui vient recomposer l'ordre de la création, sans chercher à le dépeindre d'une manière, comme le monde scientifique lui s'évertue à le faire, mais de manière originale, et selon d'ailleurs des codes artistiques qui existaient déjà avant même que l'auteur ne vienne à l'écrire. Selon des codes artistiques qu'on appelle appartenant au Proche-Orient ancien, c'est-à-dire de cette région-là, et à l'époque où ça a été écrit, voire même un peu avant. Autrement dit, ce récit doit être abordé comme si l'on venait regarder une œuvre artistique pour en découvrir le message à travers aussi la manière dont l'auteur va vouloir le dire, son style si vous préférez. Et aussi, posons-nous maintenant la question suivante. Qu'est-ce que l'auteur de la Genèse et surtout de ce récit-là veut nous dire en composant ce récit de cette façon, en choisissant un style artistique, poétique, et en même temps, en l'ordonnant, en le structurant. Vous avez vu, c'est 2 fois 3 jours, etc. Alors tout à l'heure, j'avais dit quelque chose, j'y reviens un petit peu. À l'époque de l'auteur, dans son contexte, dans ce contexte qu'on appelle celui du Proche-Orient ancien, ça remonte, hein, un petit peu, où les civilisations voisines, elles-mêmes, adoraient la création. Je vous le cache pas, vous le savez, les peuplades païennes, au Moyen-Orient, tout comme ailleurs d'ailleurs, adoraient la création, servaient des divinités qu'elles avaient créées et qu'elles identifiaient souvent à la création. Et notamment, elles vouaient un culte aux astres pour plusieurs d'entre elles, et dans le Proche-Orient ancien. Et on a découvert par l'archéologie des vieux textes qui disent un petit peu leur rapport entre eux et les divinités qu'ils s'étaient inventées. Et d'ailleurs, ça peut troubler certains chrétiens parce que ces textes-là ressemblent parfois beaucoup étrangement aux textes de Genèse 1. N'en soyez pas choqués. N'en soyez surtout pas choqués. C'est que l'auteur a su identifier un style qui permet d'expliciter certaines choses à propos de ce monde autour de nous, mais l'a redit autrement et avec toute la sagesse de Dieu. Et j'y viens. Oui, dans les civilisations voisines, les gens adoraient la création. Ils vouaient un culte aux astres. Et l'auteur, lui, ici, parce qu'il l'est inspiré, va user d'un ton polémique. Il fait de l'art, mais avec polémique. Parce qu'il vient corriger, il vient enseigner et dire la vérité, d'où la nécessité d'un ton polémique. Je reprends le style de mes voisins, mais je le tords pour lui faire dire la vérité cette fois. Et il va donner d'ailleurs, c'est comme ça qu'il devient polémique, donner une place secondaire au soleil, à la lune. Ce sont juste des objets de la création qui permettent d'apporter de la lumière ou le jour ou la nuit, tel que c'est dit, hein, je le rapporte plus ou moins bien. Et en le faisant ainsi, en jouant de cette polémique, il met à distance toute tentation d'idolâtrie. Et là, on voit la vertu de l'auteur inspiré par Dieu, avec la sagesse que lui donne l'Esprit Saint, quand il vient à dire ce que Dieu a fait et pourquoi il l'a fait. Autrement dit, ici, ce texte biblique, surtout, ne cherche pas à donner un rôle d'acteur à quoi que ce soit de la création, encore moins au soleil, tout comme la lune. L'une comme l'autre sont rangées au même rang, c'est-à-dire à un élément de la création. Pas plus, pas moins que l'écureuil, le gland, l'arbre, ce que vous voulez. J'exagère, hein. Mais ils sont tous au même niveau. Ils sont tous objets de la création. Il n'y en a pas un qui gouverne à quoi que ce soit. Ou alors s'il gouverne à quelque chose, c'est parce que Dieu l'a décrété en disant « Toi, tu gouverneras en donnant le jour au jour. » Bon bref, hein. Je dis mal, le texte le dit mieux. Mais ici, nul ne donne vie à la création en dehors de Dieu. Et d'ailleurs, la plus célèbre des phrases, qui est le premier verset où il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », il y a là déjà, à l'époque, une phrase qui avait de quoi fâcher. Nous, on ne s'en rend pas compte, on la connaît, elle est par cœur, elle fait partie de notre tralala de tous les jours. Mais quand l'auteur ici biblique dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, pour la première fois dans l'histoire humaine, on a cette révélation d'un Dieu unique, éternel, transcendant par rapport à l'univers tout entier. Un univers qu'il a créé alors que jusqu'à présent, dans le récit des voisins que les hommes avaient inventés, que composèrent toutes ces civilisations pourtant très sages à l'époque, elles étaient perçues comme savantes. D'ailleurs, les archéologues les voient comme savantes. Pour ce qu'elle pouvait découvrir. On avait jusque-là une multiplicité de divinités qui se confondaient avec la création, qui s'affrontaient très souvent. Ça commençait par des guerres ou des violences ou des séparations de couples, et l'univers naissait de cela. Mais ils étaient à la fois mélangés à la création, etc. Et là, je vous dis, dès le commencement, dès le premier verset, dès les premiers mots, l'auteur se fait très polémique. Il dit quelque chose d'impensable à l'époque. On ne se l'imagine pas assez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait rien avant lui. Il a tout fait. Et après cette déclaration inaugurale, qui est choc, je l'exagère un peu, mais je le vois comme ça, et je pense que ça l'était comme ça, j'en suis même convaincu, l'auteur exprime à la suite, par tout le travail qu'il a fait, ce beau récit que l'univers dans lequel lui vit, et n'importe qui vit, le fruit de la main de Dieu, celle de sa parole créatrice, celle d'un univers ordonné, celle d'un univers structuré, harmonieux et même intelligible. C'est-à-dire qu'on peut chercher à le comprendre parce que justement il est ordonné et structuré. C'est pas un espèce de hasard alambiqué qui aurait pu donner tout et n'importe quoi. Et puis c'est ça. Non. Ce que suggère précisément la construction minutieuse et poétique de ce texte. L'auteur s'est donné la peine de le bien écrire, de l'écrire avec plus d'audace et de travail que la plupart des psaumes d'ailleurs. Alors, j'exagère là aussi un peu, hein. La plupart des psaumes sont très bien travaillés. Mais tous ces parallèles, tous ces jeux de sonorité qu'il a voulu rendre dans le texte en hébreu et que l'on peut percevoir plus ou moins parfois encore dans le français ou dans d'autres langues, les refrains qui reviennent, et il y en a, vous les connaissez, ces refrains. Quelles sont les paroles qui reviennent 6 fois au moins? Voilà. Il y eut un jour, il y eut une, etc., etc. Tout cela, justement, appuie ce que je viens de dire là. Oups, j'en suis déjà à la quasi-fin. Et oui, cela affirme le fait que Dieu est au centre de toute chose. Le texte, d'ailleurs, finit sur la création de l'homme. Dans le 6e jour, il y a d'abord la plupart des êtres vivants, animaux, et puis il y a l'homme. Couronnement de cette œuvre de création. Je ne reviens pas là-dessus, ce sera un autre message, mais d'un homme créé en image de Dieu, en tant qu'image de Dieu ou à l'image de Dieu, peu importe les variations. À qui est confiée la mission de gérer la création? Il lui est confié une bonne gestion qui se traduit d'ailleurs par ses différents ordres. Or, et dans Genèse 1, et après encore dans Genèse 2. On le réentend avec parfois des petites nuances, mais qui reviennent sur cela. De se multiplier, et pourtant on l'entend aussi pour les animaux, pour certains. De la dominer. Alors, surtout à ne pas mal interpréter là aussi. Hein. Si vous plaquez tout de suite le premier sens qui vous vient, vous avez tout faux. Dominer la création ne veut pas dire la surexploiter. Malheureusement, on y est depuis trop longtemps déjà. Mais plus intéressant, et ça on n'a pas lu, mais en Genèse 2, dans le temps où Dieu va apporter une solution à la solitude de l'homme. Au milieu de cela, Dieu fait passer et défiler la plupart des créatures animales. Que fait l'homme là-dessus? Il les nomme. Or, il n'est pas encore à leur donner des noms latins pour dire qu'il est dans tel embranchement, dans telle classe, dans tel ordre et dans telle famille. Mais il les nomme. Et quand Dieu lui donne ce privilège, parce que c'est le privilège de l'homme dans la création, c'est qu'il a un devoir aussi. Il doit chercher à comprendre ce qu'il y a face à lui, autour de lui, et que Dieu a placé autour de lui. Et c'est cela que j'entends, quand Dieu lui propose la possibilité de regarder à toutes ces autres créatures, et lui les nomme. Il les décrit. Alors, j'en arrive à conclure, ou presque, mais comme vous pouvez maintenant, et je l'espère, le percevoir, l'intention de ce récit, et je reste sur l'intention, je ne vais pas plus loin, je vous ai dit, les dinosaures et tout ça, on évacue, hein. Mais comme vous pouvez le percevoir, l'intention de ce récit n'est pas de tout nous révéler. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas cherché à répondre à tout aussi ce matin. Oui, l'intention de ce récit n'est pas de tout nous révéler sur la manière dont Dieu s'y est pris pour construire l'univers. Bien au contraire, l'intention de ce récit de Genèse 1, un récit si particulier et qui ouvre à toute la révélation après, est de situer l'univers comme une création ordonnée par Dieu. Et plus encore, ou est, de situer l'homme dans ce monde en lui montrant qu'il a une place particulière à y tenir. Et je devrais même dire qu'il a une responsabilité. Avec cette invitation à explorer l'ordre de ce monde, à le comprendre, parce que justement, il est structuré, intelligible, voulu par Dieu. À le saisir par l'intelligence. Chose qui n'est pas dit d'une manière littérale dans le texte, mais que je comprends et que je pense, j'aimerais vous partager, à aussi en respecter ses équilibres. On en est loin aujourd'hui. Alors, je ne parle pas pour nous peut-être, quoique. Mais dans un monde qui surexploite et qui ne permet même pas d'offrir toute richesse à tout homme, beaucoup se l'approprient une petite partie s'approprie tout, et le reste ne vit qu'avec 3 fois rien. On en est là, hein, vous savez, je le dis en très résumé. Sommes-nous justement dans la bonne gestion que Dieu nous avait invités à avoir depuis l'aube des temps? Je crois qu'on s'est un peu loupé. Et là, ça devient vraiment très critique. Serait-ce peut-être le début de la fin du monde? Elle a déjà commencé depuis un moment, mais avec le péché. Autrement dit, ce texte nous invite tout simplement à entrer dans la bénédiction divine, dans ce que Dieu nous a donné, dans ce qu'il nous a confié. Et il ne cherche pas forcément à répondre à beaucoup d'autres questions, celles que j'ai peut-être, entre autres, évoquées tout à l'heure un peu plus tôt. Ainsi Dieu nous appelle à ouvrir notre intelligence à son œuvre. Nous n'avons pas là un texte qui oppose, à mon sens, la foi à la science. Surtout pas. Mais quelque chose au contraire de très apaisant. Et de dynamique à la fois. Un plaidoyer en faveur de l'exploration du monde selon la mission créationnelle que Dieu confia à l'humanité dès ses origines. À y vivre, à l'aborder, à la comprendre, à la connaître et à savoir bien la gérer. Cette responsabilité, nous devons la prendre au sérieux en tant que croyants si nous voulons être justement aussi lumière dans ce monde, ce qui signifie aussi avancer avec cette conscience de vivre dans un monde créé. De le recevoir comme un don. Vous avez peut-être, il n'y a pas si longtemps, reçu des cadeaux, pour certains. Peut-être pas, peut-être vous êtes trop grand, trop sage, et aujourd'hui il n'est plus sage d'avoir des cadeaux, mais les cadeaux que vous recevez, ou du moins quand vous les receviez autrefois, j'espère que vous ne les massacriez pas dès le premier jour. Vous preniez le truc, l'emballage vous déchiriez, et puis vous sortiez le truc et vous balancez toutes les pièces de partout. J'imagine que vous y alliez avec un peu de joie, de patience, et vous aimiez honorer cela. N'est-ce pas aussi un grand cadeau que Dieu nous a fait dès l'origine? Et ne nous sommes peut-être pas, nous tous, en train de tout balancer de partout. J'y reviens, hein, c'est toujours un de ces trucs que j'aime bien prendre à témoin. L'horribilis, outil que nous avons là, qui est une des choses qui exploite notre planète pour le fabriquer. Combien de téléphones portables avez-vous à vous acheté en 5 ans? Ces 5 dernières années. Ne me répondez surtout pas, hein, je veux pas... Avons-nous besoin d'en racheter un tous les ans? Franchement. Quand nous savons à quel point cela parfois amène à des guérillas, pollue la planète, coûte très cher. En plus, vous êtes très souvent, vous faites arnaquer. Hein. Certains valent plus d'un SMIC, je crois. C'est une folie. Hein, bref, on ne va pas rentrer plus là-dedans. Je vais me faire plus polémique que le texte ne l'est. Hein. Mais je reviens sur ce que je veux dire et le centre de mon message. Parce qu'il faut l'entendre. Oui, nous devons prendre en sérieux en tant que croyants que si nous voulons être lumière dans ce monde, ce qui signifie aussi avancer avec cette conscience de vivre dans un monde créé, le recevoir comme un don, avec reconnaissance, l'explorer et le valoriser comme des gestionnaires fidèles. Il en est de même de ce que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas égaux par rapport à nos propres richesses, par rapport aux choses matérielles qui nous sont confiées. Mais en tant que peuple aussi, nous avons reçu des choses. Nous avons un bâtiment, plus ou moins solide, plus ou moins beau, plus ou moins tout ce qu'on veut d'ailleurs. Mais soyons attentifs à ce que Dieu nous donne. Apprenons à le valoriser. Apprenons à comprendre peut-être ce que Dieu veut dans la manière dont nous gérons toute chose qu'il nous confie. Attention, je ne suis pas en train de dire, surtout gardons ce bâtiment qu'il reste millénaire, je ne suis pas sûr qu'il le sera d'ailleurs. Mais prenons le temps de réfléchir au fait que nous vivons dans ce monde qui a été créé, dans lequel nous avons été placés. Cela fait aussi partie de notre témoignage. Voilà, arrêtons-nous un instant, j'en ai fini là, et prenons le temps de nous incliner chacun. Seigneur, en ce matin, je ne peux que me tourner vers toi et te dire toute mon adoration. Seigneur, de te remercier parce que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, même si nous l'avons peut-être déjà malmené, est un monde beau, est un monde ordonné, un monde qui montre ta grandeur et ta magnificence, qui, si nous n'étions pas pécheurs, ne pouvait que tous nous amener à t'adorer, comme le suggère Paul dans son épître aux Romains. Or, nous avons failli et nous faillissons encore. Nous ne sommes pas toujours ces bons gestionnaires que tu avais demandé d'être. Mais Seigneur, pour que notre témoignage soit à l'image de ta gloire, aide-nous aujourd'hui dans notre quotidien aussi. Peut-être aussi dans ces vœux et bonnes intentions que nous avons pour cette année nouvelle, à savoir peut-être y vivre d'une manière plus sage, plus respectueuse de tout ce que tu nous offres. Afin que cela soit un témoignage véritable. Non pas que nous cherchions à être les plus écolos des écolos, mais que nous puissions vivre dans ce que tu nous as donné et ce que toi-même tu as ordonné et structuré pour nous y placer. Seigneur, merci parce que tu nous as fait, dès l'origine, un immense cadeau, après celui de ta présence. Et Seigneur, aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans ta présence, mais peut-être nous nous oublions aussi dans le fait que tu nous as placés dans cette création et que tu nous y maintiens aujourd'hui, parce que tu nous veux solidaires de ce monde. Aussi, Seigneur, apprends-nous encore à avancer et à vivre dans ce monde-là. Amen.